Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Après le drame de Conflans-Sainte-Honorine, le gouvernement contraint à une obligation de résultat. Les Français attendent des mesures concrètes. Ils ne pourront pas se contenter de condamnations et dommages nationaux. On en parle ce soir avec vous, les grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir.
Alors cette tâche très délicate, elle repose essentiellement sur les épaules du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec, je le disais, une obligation de résultat pour que la peur change vraiment de camp, comme l'a promis Emmanuel Macron. Ça veut dire fini les demi-mesures.
Il faut frapper vite et fort. Alors c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Pourquoi ? Parce que effectivement, le ministre Darmanin, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir des intentions d'agir vite et fort. Il en a les convictions. C'est lui, n'oublions pas que c'est lui qui avait parlé avant que ça arrive dans Sauvagement, aux grandes dames de certains autres ministres. Donc il en a l'intention.
Il est l'homme de la situation.
Je crois qu'il est bien là où il est, parce qu'effectivement, je redoute ce qu'on aurait pu penser si on avait gardé le ministre précédent. Bon. Mais les intentions, je vais prendre juste l'exemple de la fermeture de la mosquée de Pantin, qui interviendra dès demain soir. On la ferme pour 6 mois. Est-ce que c'est une mesure efficace ou pas ? Fermer la mosquée pour 6 mois, ça veut dire que les musulmans qui fréquentaient cette mosquée, peut-être quelques centaines, peut-être plus, je ne sais pas, c'est assez important, Pantin, vont se trouver sans endroit pour aller prier. Il va donc y avoir une forme de colère, de ressentiment. Et puis quoi ? On ne touche pas à l'imam qui a été quelque part, on verra à quel niveau, mais qui a été un peu complice dans l'opération qui a abouti à l'exécution terrible du professeur. Eh bien, cet imam, apparemment, sa mosquée sera fermée pour 6 mois.
Pour
et lui,
oui.
On ne nous dit pas ce qui lui arrivera. Bon. Et puis, au bout de 6 mois, le droit imposera de revoir la décision. Alors, on la refermera encore pour 6 mois ou on la rouvrira ? Et c'est pareil pour toutes les mosquées salafistes de France. Il y en a 150 peut-être. Bon, on risque d'en fermer quelques-unes. Est-ce qu'on va s'en prendre directement aux imams qui les font tourner ? Est-ce qu'on va les fermer pour ad vitam aeternam ? Pour certaines d'entre elles, ça serait de salut public. Mais c'est à chaque fois extrêmement difficile. D'où l'idée que je me dis, c'est très bien d'avoir l'envie de prendre des mesures fortes. Et puis il y a aussi le calendrier. Et je terminerai là-dessus. Le calendrier, c'est élection présidentielle. Dans 18 mois, on est en campagne présidentielle et il faut faire tout ce travail dans les 18 mois qui viennent. C'est peu.
Charles Villeneuve ?
Écoutez, moi, j'ajoute sur l'implication de l'imam de la mosquée de Pantin, c'est qu'il a relayé une vidéo qui donnait l'adresse du professeur d'histoire-géographie. Donc il est impliqué, manifestement.
Et je comprends c'est pas pénalement répressible.
Oui, et c'est beaucoup plus, si vous voulez, c'est un fait matériel qui pourra parfaitement constituer, si vous voulez, un indice de présomption très forte pour le juge si on lui interdit de toute façon de prêcher. Je pense que c'était la bonne décision plutôt que de fermer la mosquée parce qu'ils vont se répandre partout, les fidèles, de toute façon, ils continueront à fréquenter d'autres mosquées, peut-être aussi salafistes. Je ne sais pas si la mosquée de Pantin était classé salafiste. Non, mais quand on choisit, si vous voulez, l'épreuve de force et qu'on appelle à des actions concrètes, on appelle aussi à des résultats. Le président de la République a dit qu'il voulait cibler l'islamisme radical, mais pas les musulmans. Et l'affaire n'est pas facile du tout pour le ministre de l'Intérieur, parce que la France a ce qu'il faut juridiquement contre le terrorisme, pas contre l'islamisme. Et ça, c'est assez important, si vous voulez, de considérer cette notion-là. Prenons par exemple la dissolution, c'est l'objectif numéro 1 du ministre de l'Intérieur, du Conseil du collectif contre l'islamophobie en France. Bon, si vous voulez, rappelons-nous que les sages du Conseil constitutionnel ont censuré la loi contre les contenus haineux.
La loi Avia, oui.
Voilà, poussée par la députée de La République En Marche, Laetitia Avia, qui contraignait notamment, si vous voulez, les associations et les réseaux sociaux à retirer tous les contenus dans les 24 heures, les contenus haineux.
Sous prétexte d'atteinte à la liberté d'expression.
Voilà. Et cette loi a été censurée au nom de la liberté d'expression, justement. qui est finalement quasiment sacré en France, si vous voulez. C'est-à-dire que la loi, que l'argument de la députée s'est retourné même contre sa propre proposition. Alors, il est évident qu'on va revenir là-dessus, parce qu'il faudra bien, et d'ailleurs, le Conseil, le CCIF, a dit que c'était suffisant de toute façon pour, en réalité, si on voulait dissoudre l'association, pour stigmatiser, et les musulmans prendront cette décision comme une attaque, si vous voulez, contre les musulmans de France. Et ce n'est pas faux. C'est pour ça que c'est assez délicat et que la tâche du ministre de l'Intérieur est très difficile. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, vous verrez dans le cours, évidemment, des choses, que ressurgisse le droit pénal à l'ennemi. Oui. Rappelez-vous que le président de la République précédent, François Hollande, y avait puisé la déchéance de nationalité, ce qui valait pour la plupart des djihadistes qui étaient libérés, et un certain nombre l'ont été, pour quitter la France. Et évidemment, ça avait échoué, puisque c'est une révision constitutionnelle, et une partie de la gauche avait été extrêmement critique à l'égard de François Hollande, réprouvant que ça vienne de leur propre camp.
On va y revenir, on poursuit ce débat dans un tout petit instant, messieurs, sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h41 sur Europe 1 et on poursuit ensemble notre débat des grandes voix, toujours avec Charles Villeneuve et Gérard Carrero. Après la colère et l'écœurement provoqués par la décapitation d'un enseignant par un terroriste islamiste, le gouvernement sommet d'agir. On a évoqué tout à l'heure les dissolutions d'associations, messieurs, qui s'annoncent très compliquées, contre l'islamisme radical. Le Sénat a voté hier une proposition de loi de sa majorité de droite afin d'inscrire dans la Constitution la prééminence des règles de la République contre l'avis du gouvernement qui juge ce texte inutile. En gros, le Sénat veut modifier la Constitution. Ça a peu de chances d'aboutir.
C'est tout le problème. Le problème, c'est qu'il y a, une partie de nos dirigeants qui pensent que la France dispose largement déjà d'un arsenal juridique et judiciaire qui lui permet d'affronter.
Charles Villeneuve
nous
disait le contraire.
Je pense, comme Charles, que ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Peut-être que dans les textes formels des lois, etc., on dit oui, vous voyez, on a les arguments, on a les armes. En réalité, ce n'est pas vrai, parce qu'au fil des ans, et notamment des 20 dernières années, notre état de droit est devenu de plus en plus, je dirais, soft, je dirais même mou, laxiste en partie, et de plus en plus protecteur pour les agresseurs de la France. Et de moins en moins protecteur pour les citoyens français. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a en plus un certain nombre, il y a d'abord la faiblesse d'un certain nombre d'hommes politiques, gauche et droite confondus au fil des 20 dernières années, il y a les institutions que nous avons qui sont des freins, vous avez cité, on pourrait citer le Conseil constitutionnel, vous l'avez cité, Charles l'a cité, mais on pourrait également citer le Conseil d'État. Souvenez-vous de l'affaire du voile. La première bataille, ça a été la bataille du voile. Le Conseil d'État a renvoyé la balle. Il n'a pas osé prendre une décision. Il a fallu attendre 10 ans de plus pour avoir une décision.
Alors avec tous ces freins, on
ça,
fait
plus,
comment ?
J'oublie l'Europe. Les décisions européennes et les institutions européennes, par exemple la Cour européenne de justice, ne se privent pas de casser un certain nombre de décisions françaises.
Quand on vous écoute, on se dit qu'on ne va jamais rien pouvoir
faire.
On va
y arriver, si, parce que je crois que le président de la République joue un rôle fondamental. S'il a vraiment, lui, et je pense qu'il l'a, on verra demain, s'il a vraiment envie de marquer son quinquennat par cette politique de fermeté face à l'islamisme et face au terrorisme, la volonté politique, ça joue quand même. Vous avez le général de Gaulle, il a bougé un peu, il a fait bouger les institutions. On peut faire travailler la poutre, comme disait
autrefois. Vous pensez
autrefois,
qu'on peut avoir des annonces
je
fortes
pense,
à l'issue
avoir
du Conseil des ministres
ça, j'en sais
demain.
Encore rien.
Charles Villeneuve.
Mais écoutez, il y a d'abord toujours avoir en tête cette notion qui est très importante, parce que très souvent, on met en accusation les juges d'instruction. La justice ne suit pas, dit-on. La justice, les juges sont formés d'une manière extrêmement stricte sur ce plan-là. Ils ont besoin, si vous voulez, de dossiers dont les preuves sont avérées, de faits matériels. Et c'est la raison pour laquelle, ne trouvant pas, si vous voulez, la Constitution...
Ce qui est normal.
Absolument. Et c'est ce qui fait que très souvent, les condamnations ou les expulsions sont plus difficiles à obtenir. C'est à décharge, si vous voulez, des juges. Gérard ne va pas m'accuser de plaider en faveur des juges, mais j'ai longtemps pratiqué les juges pour savoir qu'ils sont assez scrupuleux sur ce plan-là. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, la lutte contre le terrorisme, mais aussi la lutte beaucoup plus difficile contre l'islamisme radical, s'inscrit dans un temps long. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il ne faut pas attendre de résultats spectaculaires tout de suite.
Sauf que les Français, aujourd'hui, oui, ils veulent des résultats. Ça a été vraiment terrible, hein, cette image de Samuel Paty décapité. Ils sont très impatients, les Français.
C'est pour ça qu'il y a une possibilité. Moi, je pense qu'il y a, pour la première fois, depuis 5 ans, pour la première fois...
Charlie Hebdo.
On a compris.
Je pense. Pour la première fois, on est dans un moment... Il y a un instant décisif, toujours, quand on regarde les choses. Il y a des moments où la situation n'est pas encore assez mûre, et puis tout d'un coup, il y a un moment décisif, et l'opinion... Et là, je crois que, malheureusement...
C'est maintenant.
Pour ce professeur, cette tête coupée, elle restera dans la tête des Français, et pour longtemps. Donc je pense que là, il y a des possibilités d'intervention. Mais quand Charles dit les juges sont scrupuleux, regardez le sort de ce garçon qui venait de Tchétchénie, l'OFPRA.
Il avait bénéficié de la protection de la France.
L'OFPRA,
hein.
Oui, mais l'OFPRA avait décidé de ne pas l'accepter comme réfugié du droit d'asile. Qui est-ce qui a décidé de laisser entrer lui et sa famille? C'est le juge français qui a statué, après que l'OFPRA ait dit non, le juge français a dit oui, et il est entré. Et ça, on le trouve dans un... Et d'ailleurs, ça scandalise beaucoup de gens. On le trouve dans un certain nombre de décisions.
Mais l'attribution, c'est vrai. Tu as raison de souligner, l'attribution du droit d'asile est beaucoup plus délicat, et des fois, il y a une sorte de... si vous voulez, de tolérance beaucoup trop large par rapport à l'attribution de ces droits d'asile.
Mais c'est compliqué
vrai que ça,
parce que c'est géré discussion. Par la Convention de Genève, le droit international.
Très vrai. Mais si vous voulez, les dissolutions d'associations reposent sur des bases juridiques incertaines. De la même manière, les expulsions annoncées. Il faut le dire, c'est un peu du réchauffé, la liste des 231. Mmh. Ça court depuis plusieurs mois, déjà qu'un certain nombre de ces gens inscrits, si vous voulez, sur ces listes d'expulsables, traînent, parce que ce n'est pas si facile que ça. Tout à l'heure, vous avez abordé dans votre discussion avec Frédéric Ancel le problème des négociations. Hier, je vous avais dit que le ministre de l'Intérieur qui va se rendre dans les pays du Maghreb, notamment, le plus accueillant étant très largement le Maroc, aussi la Tunisie, moins l'Algérie, mais l'attribution des visas est une arme, si vous voulez, le nombre d'attribution de ces visas est une arme de négociation importante aussi bien pour le ministre de l'Intérieur que le ministre, Affaires étrangères. Ouais. Mais il y a aussi l'efficacité opérationnelle des perquisitions. Croyez-vous que la plupart de ces militants n'attendaient pas la visite des policiers qui ont fait irruption, si vous voulez, dans leurs locaux? Ils ont largement eu le temps de faire le ménage, de nettoyer. C'est pour ça que le résultat ne sera pas certainement aussi fructueux qu'espérer.
Est-ce que je comprends dans ce que vous me dites, messieurs, le temps long et le couple ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, qui doit être soudé, ils doivent être soudés tous les deux comme jamais dans le contexte actuel.
On avait vu qu'il n'était pas tant que ça. Alors,
il faut qu'ils le soient
parce que le président va taper sur la table.
Oui.
On marque une toute petite pause. À tout de suite, les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h51 et on poursuit le débat des grandes voix avec Gérard Carrero et Charles Villeneuve, toujours en direct. On a évoqué il y a quelques instants la tâche immense qui attend le gouvernement et en particulier le ministre de l'Intérieur, mais aussi celui de la Justice, pour apporter une réponse forte après le drame de Conflans-Sainte-Honorine. Je voudrais, messieurs, si vous le voulez bien, qu'on élargisse un peu le débat. On a le sentiment que jamais un gouvernement n'a eu à gérer autant de problèmes qui apparaissent pratiquement insurmontables. La crise sanitaire, le Covid, crise économique sans précédent, cette terrible affaire, bien sûr, de Conflans-Sainte-Honorine, auquel on peut ajouter les inondations dans le Sud-Est, les gilets jaunes. C'est comme si tous les vents contraires se déchaînaient sur ce gouvernement.
C'est un vrai programme politique, ce que vous avez développé là. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un programme politique. Il faut à la fois démontrer aux Français qu'on tient fort sur le terrorisme dont on vient d'en parler, annoncer aux Français qu'on va gérer assez bien la crise sanitaire en évitant qu'il y ait à nouveau 30 000 morts de plus. Ça, c'est déjà le deuxième dossier. Puis quand on a fait ça, il faut se dire, attention, et puis et dans quel état est l'économie du pays? Comment relancer? Alors certes, à coups de milliards grâce à l'Europe, pour une fois grâce à l'Europe, mais il faut en sortir, il faut remettre les gens au travail, c'est pas possible. L'État français paye les salaires de la moitié des Français. Or ça, on l'a jamais vu, sauf dans les États socialistes. Je veux dire, même dans les pays communistes d'autrefois. Donc, à un moment donné, il faudra sortir de ça. Et puis, il reste encore Charles, qui connaît bien la région. Il reste tout ce qu'il faut rembourser à tous ces pauvres gens qui ont été...
Les
aléas climatiques. Attendez, Barbara, qui est en,
la tempête qui est en train d'arriver.
Peut-être qu'il y aura encore des dégâts considérables. Donc, voilà à peu près les quatre points. Ben, si Macron se sort bien de ces quatre points, alors...
Est-ce que c'est un quinquennat tragique, comme l'écrit ce soir le journal Le Monde, Charles Villeneuve ?
Oui, je pense que, si vous voulez, entre toutes les urgences que vous avez énumérées, et sur lesquelles est venu aussi Gérard Carrérou, entre la crise sanitaire et celle du terrorisme, je trouve que ce sont deux urgences qui favorisent ou contribuent à la droitisation, si vous voulez, du quinquennat, et qui affaiblit du même coup la doctrine macroniste du « en même temps », c'est-à-dire gauche et droite, c'est qui a fait son élection en 2017. Il ne faut pas l'oublier. Il y a 20 millions de Français, tu as sous-entendu d'ailleurs, qui sont tous anxieux et inquiets, puisque le confinement restreint, en quelque sorte, du couvre-feu autour de 9 métropoles et pour toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, plonge dans l'anxiété par rapport justement à la menace de la crise sociale et économique, 20 millions de Français qui sont anxieux. Et je pense que cette anxiété, si vous voulez, a pu transparaître dans l'intervention le 14 octobre du président de la République. Parce qu'au lieu d'imposer, si vous voulez, comme ça avait été jusqu'à présent son ton dans la gestion de la crise sanitaire, il a fait appel à la participation, à l'intelligence des Français. Il a répété 3 fois, j'ai besoin de vous.
Est-ce que finalement les Français vont avoir un peu d'indulgence quand même face à cet alignement des planètes, ou est-ce qu'au contraire, vu qu'ils sont affectés par tous ces maux, ils vont en vouloir encore plus à l'exécutif? Est-ce que la cocotte minute risque d'exploser?
Ce sera partagé.
Il y aura beaucoup de gens qui de toute façon diront, il est affaibli, il faut l'achever. Quoi.
Oui.
Depuis la droite dure du Front National jusqu'à d'autres de la droite moins dure des Républicains.
Ça, c'est la tradition des cirques romains.
Et c'est la tradition aussi d'une bataille électorale. Pourquoi voudriez-vous que ça change et qu'au moment de voter, dans quelques mois, puisqu'en fait, ça revient à ça, une quinzaine de mois, au moment de voter, les gens, tout d'un coup, découvrent une volonté d'indulgence particulière à l'égard du chef de l'État. Chef de l'État, ils sont là pour faire le boulot, et s'ils ne font pas le boulot, ben on les change.
Oui, mais en même temps, si vous voulez, je ferai une remarque, justement, que je reprendrai une des remarques du ministre de l'Intérieur sur Europe 1 au micro
hier
de Samia
Mabrouk, oui.
Lundi. C'est que, en ce qui concerne, par exemple, la crise terroriste, tout l'arsenal juridique qui a été, si vous voulez, élaboré, voté à l'Assemblée nationale, ratifié par le Sénat, et qui est rentré dans l'actualité, si vous voulez, de la répression policière et puis des services de renseignement, le Rassemblement national n'en a voté aucune de ces lois. Aucune. Et donc, si vous voulez, peut-être qu'ils vont achever, comme dit le gladiateur Macron, comme on le faisait à l'époque de Rome, c'est ce que j'appelle la tradition du cirque romain, mais je suis, moi, plus optimiste, si vous voulez,
que
Gérard. Je l'ai toujours été. Je suis d'un tempérament optimiste. Je pense quand même qu'on reconnaîtra une certaine qualité quand même du gladiateur Macron
dans
cette gestion-là.
Avant la
je compte
bataille,
sur
reste,
vous, messieurs, pour suivre le gladiateur Macron. Merci à vous, les grandes voix, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, d'avoir été encore avec nous ce soir. On vous dit à très vite.
Europe 1.